Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis de Radio Kardec, bonjour. Pour cette première émission de mai 2010, nous cédons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires et notamment par l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. Nous devons également de vous rappeler que vous avez la possibilité de laisser vos commentaires sur le contenu de nos émissions, et ceci directement sur le site de Radio Kardec. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle vous invite à poursuivre le chapitre 14, traitant des fluides, et plus particulièrement de la nature et propriété des fluides, suite des éléments fluidiques du point 4 au point 6, de la formation et propriété du périsprit du point 7 au point 10.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 14, les fluides, nature et propriété des fluides, éléments fluidiques. Point 4. Les éléments fluidiques du monde spirituel échappent à nos instruments d'analyse et à la perception de nos sens, faits pour la matière tangible et non pour la matière éthérée. Il en est qui appartiennent à un milieu tellement différent du nôtre que nous n'en pouvons juger que par des comparaisons aussi imparfaites que celles par lesquelles un aveugle né cherche à se faire une idée de la théorie des couleurs. Mais parmi ces fluides, quelques-uns sont intimement liés à la vie corporelle et appartiennent en quelque sorte au milieu terrestre. À défaut de perception directe, on peut en observer les effets, comme on observe ceux du fluide de l'aimant que l'on n'a jamais vu, et acquérir sur leur nature des connaissances d'une certaine précision. Cette étude est essentielle, car c'est la clé d'une foule de phénomènes inexplicables par les seules lois de la matière. Point 5. Le point de départ du fluide universel est le degré de pureté absolue, dont rien ne peut donner une idée. Le point opposé est sa transformation en matière tangible. Entre ces deux extrêmes, il existe d'innombrables transformations qui se rapprochent plus ou moins de l'un et de l'autre. Les fluides les plus voisins de la matérialité, les moins purs par conséquent, composent ce qu'on peut appeler l'atmosphère spirituelle terrestre. C'est dans ce milieu, où l'on trouve également différents degrés de pureté, que les esprits incarnés et désincarnés de la terre puisent les éléments nécessaires à l'économie de leur existence. Ces fluides, quelque subtils et impalpables qu'ils soient pour nous, n'en sont pas moins d'une nature grossière comparativement aux fluides éthérés des régions supérieures. Il en est de même à la surface de tous les mondes, sauf les différences de constitution et les conditions de vitalité propres à chacun. Moins la vie y est matérielle, moins les fluides spirituels ont d'affinité avec la matière proprement dite. La qualification de fluide spirituel n'est pas rigoureusement exacte, puisque, en définitive, c'est toujours de la matière plus ou moins quintessentielle. Il n'y a de réellement spirituel que l'âme ou principe intelligent. On les désigne ainsi par comparaison et en raison surtout de leur affinité avec les esprits. On peut dire que c'est la matière du monde spirituel, c'est pourquoi on les appelle fluides spirituels. Point 6. Qui connaît d'ailleurs la constitution intime de la matière tangible? Elle n'est peut-être compacte que par rapport à nos sens, et ce qui le prouverait, c'est la facilité avec laquelle elle est traversée par les fluides spirituels et les esprits auxquels elle ne fait pas plus obstacle que les corps transparents n'en font à la lumière. La matière tangible, ayant pour élément primitif le fluide cosmique éthéré, doit pouvoir, en se désagrégeant, retourner à l'état d'éthérisation. Comme le diamant, le plus dur des corps, peut se volatiliser en gaz impalpable. La solidification de la matière n'est en réalité qu'un état transitoire du fluide universel, qui peut retourner à son état primitif quand les conditions de cohésion cessent d'exister. Qui sait même si, à l'état de tangibilité, la matière n'est pas susceptible d'acquérir une sorte d'éthérisation qui lui donnerait les propriétés particulières? Certains phénomènes qui paraissent authentiques tendraient à le faire supposer. Nous ne possédons encore que les jalons du monde invisible et l'avenir nous réserve sans doute la connaissance de nouvelles lois qui nous permettront de comprendre ce qui est encore pour nous un mystère. Formation et propriété du périsprit. Point 7. Le périsprit, ou corps fluidique des esprits, est un des produits les plus importants du fluide cosmique. C'est une condensation de ce fluide autour d'un foyer d'intelligence ou âme. On a vu que le corps charnel a également son principe dans ce même fluide transformé et condensé en matière tangible. Dans le périsprit, la transformation moléculaire s'opère différemment, car le fluide conserve son impondérabilité et ses qualités éthériques. Le corps périsprital et le corps charnel ont donc leur source dans le même élément primitif. L'un et l'autre sont de la matière, quoique sous deux états différents. Point 8. Les esprits puisent leur périsprit dans le milieu où ils se trouvent, c'est-à-dire que cette enveloppe est formée des fluides ambiants. Il en résulte que les éléments constitutifs du périsprit doivent varier selon les mondes. Jupiter étant donné comme un monde très avancé, comparativement à la Terre, où la vie corporelle n'a pas la matérialité de la nôtre, les enveloppes périsprétales doivent y être d'une nature infiniment plus quintessentielle que sur la Terre. Or, de même que nous ne pourrions pas exister dans ce monde avec notre corps charnel, nos esprits ne pourraient y pénétrer avec leur périsprit terrestre. En quittant la Terre, l'esprit y laisse son enveloppe fluidique et en revêt une autre appropriée au monde où il doit aller. Point 9. La nature de l'enveloppe fluidique est toujours en rapport avec le degré d'avancement moral de l'esprit. Les esprits inférieurs ne peuvent en changer à leur gré et par conséquent ne peuvent, à volonté, se transporter d'un monde à l'autre. Il en est de l'enveloppe fluidique, bien qu'éthérée et impondérable par rapport à la matière tangible, est encore trop lourde, si l'on peut s'exprimer ainsi, par rapport au monde spirituel pour leur permettre de sortir de leur milieu. Il faut ranger dans cette catégorie ceux dont le périsprit est assez grossier pour qu'ils le confondent avec leur corps charnel et qui, par cette raison, se croient toujours vivants. Ces esprits, et le nombre en est grand, restent à la surface de la terre comme les incarnés, croyant toujours vaquer à leurs occupations. D'autres, un peu plus dématérialisés, ne le sont cependant pas assez pour s'élever au-dessus des régions terrestres. Remarque. Exemple d'esprits qui se croient encore de ce monde. Voir Revue Spirit, décembre 1859, page 310, novembre 1864, page 339 et avril 1865, page 117. Fin de la remarque. Les esprits supérieurs, au contraire, peuvent venir dans les mondes inférieurs et même s'y incarner. Ils puisent dans les éléments constitutifs du monde où ils entrent les matériaux de l'enveloppe fluidique ou charnelle appropriée au milieu où ils se trouvent. Il faut comme le grand seigneur qui quitte ses beaux habits pour se revêtir momentanément de la bure, sans cesser pour cela d'être grand seigneur. C'est ainsi que des esprits de l'ordre le plus élevé peuvent se manifester aux habitants de la terre ou s'incarner en mission parmi eux. Ces esprits apportent avec eux, non l'enveloppe, mais le souvenir par intuition des régions d'où ils viennent et qu'ils voient par la pensée. Ce sont des voyants parmi des aveugles. Point 10. La couche des fluides spirituels qui environnent la Terre peut être comparée aux couches inférieures de l'atmosphère, plus lourdes, plus compactes, moins pures que les couches supérieures. Ces fluides ne sont pas homogènes. C'est un mélange de molécules de diverses qualités, parmi lesquelles se trouvent nécessairement les molécules élémentaires qui en forment la base, mais plus ou moins altérées. Les effets produits par ces fluides seront en raison de la somme des parties pures qu'ils renferment. Tel est, par comparaison, l'alcool rectifié ou mélangé, en différentes proportions d'eau ou d'autres substances. Sa pesanteur spécifique augmente par ce mélange, en même temps que sa force et son inflammabilité diminuent, bien que dans le tout il y ait de l'alcool pur. Les esprits appelés à vivre dans ce milieu y puisent leur périsprit. mais selon que l'esprit est plus ou moins épuré lui-même, son périsprit se forme des parties les plus pures ou les plus grossières du fluide propre au monde où il s'équin. L'esprit y produit, toujours par comparaison et non par assimilation, l'effet d'un réactif chimique qui attire les molécules assimilables à sa nature. Il en résulte ce fait capital que la constitution intime du périsprit n'est pas identique chez tous les esprits incarnés ou désincarnés qui peuplent la terre ou l'espace environnant. Il n'en est pas de même du corps charnel qui, comme cela a été démontré, est formé des mêmes éléments, quelle que soit la supériorité ou l'infériorité de l'esprit. Aussi, chez tous, les effets produits par le corps sont-ils les mêmes, les besoins pareils, tandis qu'ils diffèrent pour tout ce qui est inhérent au périsprit. Il en résulte encore que l'enveloppe périspritale du même esprit se modifie avec le progrès moral de celui-ci à chaque incarnation, bien que s'incarnant dans le même milieu. Que les esprits supérieurs, s'incarnant exceptionnellement en mission dans un monde inférieur, ont un périsprit moins grossier que celui des indigènes de ce monde.
Poursuivons notre lecture du jour par la suite du 14e chapitre de la Genèse, traitant des fluides et plus particulièrement de la suite de la formation et propriété du périsprit, du point 11 au point 12, de l'action des esprits sur les fluides, du point 13 au point 15, de la qualité des fluides, point 16.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 14, les fluides, nature et propriété des fluides. Formation et propriété du périsprit. Point 11. Le milieu est toujours en rapport avec la nature des êtres qui doivent y vivre. Les poissons sont dans l'eau, les êtres terrestres sont dans l'air, les êtres spirituels sont dans le fluide spirituel ou éthéré, même sur la terre. Le fluide éthéré est pour les besoins de l'esprit ce que l'atmosphère est pour les besoins des incarnés. Or, de même que les poissons ne peuvent vivre dans l'air, que les animaux terrestres ne peuvent vivre dans une atmosphère trop raréfiée pour leurs poumons, les esprits inférieurs ne peuvent supporter l'éclat et l'impression de fluides les plus éthérés. Ils n'y mourraient pas, parce que l'esprit ne meurt pas, mais une force instinctive les en tient éloignés, comme on s'éloigne d'un feu trop ardent ou d'une lumière trop éblouissante. Voilà pourquoi ils ne peuvent sortir du milieu approprié à leur nature. Pour en changer, il faut qu'ils changent d'abord leur nature, qu'ils se dépouillent des instincts matériels qui les retiennent dans les milieux matériels, en un mot, qu'ils s'épurent et se transforment moralement. Alors, graduellement, ils s'identifient avec un milieu plus épuré, qui devient pour eux un besoin, une nécessité, comme les yeux de celui qui a longtemps vécu dans les ténèbres s'habituent insensiblement à la lumière du jour et à l'éclat du soleil. Point 12. Ainsi, tout se lie, tout s'enchaîne dans l'univers. Tout est soumis à la grande et harmonieuse loi d'unité, depuis la matérialité la plus compacte jusqu'à la spiritualité la plus pure. La terre est comme un vase d'où s'échappe une fumée épaisse qui s'éclaircit à mesure qu'elle s'élève, et dont les parcelles raréfiées se perdent dans l'espace infini. La puissance divine éclate dans toutes les parties de cet ensemble grandiose, et l'on voudrait que, pour mieux attester sa puissance, Dieu, non content de ce qu'il a fait, vint troubler cette harmonie, qu'il s'abaissât au rôle de magicien par de puérils effets dignes d'un prestidigitateur. Et l'on ose, par surcroît, lui donner pour rival en habileté Satan lui-même. Jamais, en vérité, on ne rabaissa davantage la majesté divine. Et l'on s'étonne du progrès de l'incrédulité? Vous avez raison de le dire, la foi s'en va. Mais c'est la foi en tout ce qui choque le bon sens et la raison qui s'en va. La foi, pareille à celle qui fit dire jadis, les dieux s'en vont. Mais la foi dans les choses sérieuses, la foi en Dieu et en l'immortalité, est toujours vivace dans le cœur de l'homme, et si elle a été étouffée sous les puériles histoires dont on l'a surchargée, elle se relève plus forte dès qu'elle en est dégagée, comme la plante comprimée se relève dès qu'elle revoit le soleil. Oui, tout est miracle dans la nature, parce que tout est admirable et témoigne de la sagesse divine. Ces miracles sont pour tout le monde, pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et non au profit de quelques-uns. Non, il n'y a point de miracle dans le sens qu'on attache à ce mot, parce que tout ressort des lois éternelles de la création et que ces lois sont parfaites. Action des esprits sur les fluides, création fluidique, photographie de la pensée. Point 13. Les fluides spirituels, qui constituent un des états du fluide cosmique universel, sont, à proprement parler, l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux, perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit, et qui échappent au sens charnel impressionné par la seule matière tangible. Où se forme cette lumière particulière au monde spirituel, différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets? C'est enfin le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. Point 14. Les esprits agissent sur les fluides spirituels, non en les manipulant comme les hommes manipulent les gaz, mais à l'aide de la pensée et de la volonté. La pensée et la volonté sont aux esprits ce que la main est à l'homme. Par la pensée, ils impriment à ces fluides telle ou telle direction. Ils les agglomèrent, les combinent ou les dispersent. Ils en forment des ensembles ayant une apparence, une forme, une couleur déterminée. Ils en changent les propriétés, comme un chimiste change celles des gaz ou autres corps, en les combinant suivant certaines lois. C'est le grand atelier ou laboratoire de la vie spirituelle. Quelquefois, ces transformations sont le résultat d'une intention. Souvent, elles sont le produit d'une pensée inconsciente. Il suffit à l'esprit de penser à une chose pour que cette chose se produise, comme il suffit de moduler un air pour que cet air se répercute dans l'atmosphère. C'est ainsi, par exemple, qu'un esprit se présente à la vue d'un incarné doué de la vue psychique, sous les apparences qu'il avait de son vivant à l'époque où on l'a connu. Aurait-il eu plusieurs incarnations depuis? Il se présente avec le costume, les signes extérieurs, infirmités, cicatrices, membres amputés, etc., qu'il avait alors. Un décapité se présentera avec la tête de moins. Ce n'est pas à dire qu'il ait conservé ses apparences. Non, certainement, car comme esprit, il n'est ni boiteux, ni manchot, ni borgne, ni décapité. Mais sa pensée, se portant à l'époque où il était ainsi, son périsprit en prend instantanément les apparences, qu'il quitte de même instantanément dès que la pensée cesse d'agir. Si donc il a été une fois nègre et une autre fois blanc, il se présentera comme nègre ou comme blanc, selon celle de ses deux incarnations sous laquelle il sera évoqué et où se reportera sa pensée. Par un effet analogue, la pensée de l'esprit crée fluidiquement les objets dont il avait l'habitude de se servir. Un avare maniera de l'or, un militaire aura ses armes et son uniforme, un fumeur sa pipe, un laboureur sa charrue et ses bœufs, une vieille femme sa quenouille. Ces objets fluidiques sont aussi réels pour l'esprit, qui est lui-même fluidique, qu'il l'était à l'état matériel pour l'homme vivant. Mais par la même raison qu'ils sont créés par la pensée, leur existence est aussi fugitive que la pensée. Remarque, voir Revue Spirit de juillet 1859, page 184, ainsi que Livre des médiums, chapitre 8. Fin de la remarque. Point 15. Les fluides étant le véhicule de la pensée, celle-ci agit sur les fluides comme le son agit sur l'air. Il nous apporte la pensée comme l'air nous apporte le son. On peut donc dire, en toute vérité, qu'il y a dans ces fluides des ondes et des rayons de pensée, qui se croient sans se confondre, comme il y a dans l'air des ondes et des rayons sonores. Il y a plus. La pensée, créant des images fluidiques, elle se reflète dans l'enveloppe périsprital comme dans une glace. Elle y prend un corps et s'y photographie en quelque sorte. Qu'un homme, par exemple, ait l'idée d'en tuer un autre, quelque impassible que soit son corps matériel, son corps fluidique est mis en action par la pensée, dont il reproduit toutes les nuances. Il exécute fluidiquement le geste, l'acte qu'il a le dessein d'accomplir. La pensée crée l'image de la victime et la scène entière se peint, comme dans un tableau, tel qu'elle est dans son esprit. C'est ainsi que les mouvements les plus secrets de l'âme se répercutent dans l'enveloppe fluidique. Qu'une âme peut lire dans une autre âme, comme dans un livre, et voir ce qui n'est pas perceptible pour les yeux du corps. Toutefois, en voyant l'intention, elle peut pressentir l'accomplissement de l'acte qui en sera la suite, mais elle ne peut déterminer le moment où il s'accomplira, ni en préciser les détails, ni même affirmer qu'il aura lieu, parce que des circonstances ultérieures peuvent modifier les plans arrêtés et changer les dispositions. Elle ne peut voir ce qui n'est pas encore dans la pensée. Ce qu'elle voit, c'est la préoccupation habituelle de l'individu, ses désirs, ses projets, ses desseins bons ou mauvais. Qualité des fluides. Point 16. L'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarnés. Dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée, que la pensée peut en modifier les propriétés, il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration, modifiées par la pureté ou l'impureté des sentiments. Les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels, comme les miasmes délétères corrompent l'air respirable. Les fluides qui entourent ou que projettent les mauvais esprits sont donc viciés, tandis que ceux qui reçoivent l'influence des bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de ceux-ci.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 14, traitant des qualités des fluides, des points 17 au point 22, explication de quelques phénomènes réputés surnaturels.
La genèse selon le spiritisme. Suite du chapitre 14, les fluides. Nature et propriété des fluides. Qualité des fluides. Suite. Point 17. Il serait impossible de faire une énumération ou classification des bons et des mauvais fluides, ni de spécifier leurs qualités respectives, attendu que leur diversité est aussi grande que celle des pensées. Les fluides n'ont pas de qualité sui generis, mais celle qu'ils acquièrent dans le milieu où ils s'élaborent. Ils se modifient par les effluves de ce milieu, comme l'air par les exhalaisons, l'eau par les sels des couches qu'elle traverse. Suivant les circonstances, ces qualités sont, comme l'air et l'eau, temporaires ou permanentes, ce qui les rend plus spécialement propres à la production de tels ou tels effets déterminés. Les fluides n'ont pas non plus de dénomination spéciale. Comme les odeurs, ils sont désignés par leurs propriétés, leurs effets et leur type originel. Sous le rapport moral, ils portent l'empreinte des sentiments de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence, de l'hypocrisie, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la charité, de la douceur, etc. Sous le rapport physique, ils sont excitants, calmants, pénétrants, astringents, irritants, adoucissants, soporifiques, narcotiques, toxiques, réparateurs, expulseurs. Ils deviennent force de transmission, de propulsion, etc. Le tableau des fluides serait donc celui de toutes les passions, des vertus et des vices de l'humanité, et des propriétés de la matière correspondant aux effets qu'ils produisent. Point 18. Les hommes étant des esprits incarnés, ils ont en partie les attributions de la vie spirituelle, car ils vivent de cette vie tout autant que la vie corporelle. D'abord pendant le sommeil et souvent à l'état de veille. L'esprit en s'incarnant conserve son périsprit avec les qualités qui lui sont propres et qui, comme on le sait, n'est pas circonscrit par le corps, mais rayonne tout alentour et l'enveloppe comme d'une atmosphère fluidique. Par son union intime avec le corps, le périsprit joue un rôle prépondérant dans l'organisme. Par son expansion, il met l'esprit incarné en rapport plus direct avec les esprits libres et aussi avec les esprits incarnés. La pensée de l'esprit incarné agit sur les fluides spirituels comme celle des esprits désincarnés. Elle se transmet d'esprit à esprit par la même voie, et selon qu'elle est bonne ou mauvaise, elle assainit ou vicie les fluides environnants. Si les fluides ambiants sont modifiés par la projection des pensées de l'esprit, son enveloppe périspritale, qui est partie constituante de son être, qui reçoit directement et d'une manière permanente l'impression de ses pensées, doit plus encore porter l'empreinte de ses qualités bonnes ou mauvaises. Les fluides viciés par les effluves des mauvais esprits peuvent s'épurer par l'éloignement de ceux-ci, mais leur périsprit sera toujours ce qu'il est, tant que l'esprit ne se modifiera pas lui-même. Le périsprit des incarnés étant d'une nature identique à celle des fluides spirituels, il se les assimile avec facilité, comme une éponge s'imbibe de liquide. Ces fluides ont sur le périsprit une action d'autant plus directe que, par son expansion et son rayonnement, il se confond avec eux. Ces fluides agissant sur le périsprit, celui-ci, à son tour, réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculaire. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression est pénible. Si les mauvaises sont permanentes et énergiques, elles peuvent déterminer des désordres physiques. Certaines maladies n'ont pas d'autre cause. Les milieux où abondent les mauvais esprits sont donc imprégnés de mauvais fluides que l'on absorbe par tous les pores périspritaux, comme on absorbe par les pores du corps les miasmes pestilentiels. Point 19. Ainsi s'expliquent les effets qui se produisent dans les lieux de réunion. Une assemblée est un foyer où rayonnent des pensées diverses. C'est comme un orchestre, un chœur de pensées où chacun produit sa note. Il en résulte une multitude de courants et des fluves fluidiques dont chacun reçoit l'impression par le sens spirituel, comme dans un chœur de musique, chacun reçoit l'impression des sons par le sens de l'ouïe. Mais, de même qu'il y a des rayons sonores harmoniques ou discordants, il y a aussi des pensées harmoniques ou discordantes. Si l'ensemble est harmonieux, l'impression est agréable. S'il est discordant, l'impression est pénible. Or, pour cela, il n'est pas besoin que la pensée soit formulée en paroles. Le rayonnement fluidique n'existe pas moins, qu'elle soit exprimée ou non. Telle est la cause du sentiment de satisfaction que l'on éprouve dans une réunion sympathique, animée de bonnes et bienveillantes pensées. Il y règne comme une atmosphère morale salubre où l'on respire à l'aise. On en sort réconforté parce qu'on y est imprégné d'effluves fluidiques salutaires. Mais s'il s'y mêle quelques pensées mauvaises, elles produisent l'effet d'un courant d'air glacé dans un milieu tiède ou d'une note fausse dans un concert. Ainsi s'explique aussi l'anxiété, le malaise indéfinissable que l'on ressent dans un milieu antipathique où des pensées malveillantes provoquent comme des courants d'air nauséabonds. Point 20. La pensée produit donc une sorte d'effet physique qui réagit sur le moral. C'est ce que le spiritisme seul pouvait faire comprendre. L'homme le sent instinctivement, puisqu'il recherche les réunions homogènes et sympathiques où il sait qu'il peut puiser de nouvelles forces morales. On pourrait dire qu'il y récupère les pertes fluidiques qu'il fait chaque jour par le rayonnement de la pensée, comme il récupère par les aliments les pertes du corps matériel. C'est qu'en effet la pensée est une émission qui occasionne une perte réelle dans les fluides spirituels et par suite dans les fluides matériels, de telle sorte que l'homme a besoin de se retremper dans les effluves qu'il reçoit de dehors. Quand on dit qu'un médecin guérit son malade par de bonnes paroles, on est dans le vrai absolu, car la pensée bienveillante apporte avec elle des fluides réparateurs qui agissent sur le physique autant que sur le moral. Point 21. Il est sans doute possible, dira-t-on, d'éviter les hommes que l'on sait mal intentionnés. Mais comment se soustraire à l'influence des mauvais esprits qui pullulent autour de nous et se glissent partout sans être vus? Le moyen est fort simple, car il dépend de la volonté de l'homme même qui porte en lui le préservatif nécessaire. Les fluides s'unissent en raison de la similitude de leur nature. Les fluides dissemblables se repoussent. Il y a incompatibilité entre les bons et les mauvais fluides, comme entre l'huile et l'eau. Que fait-on lorsque l'air est vicié? On l'assainit, on l'épure, en détruisant le foyer de miasme, en chassant les effluves malsaines par des courants d'air salubres plus forts. À l'invasion des mauvais fluides, il faut donc opposer les bons fluides. Et comme chacun a dans son propre périsprit une source fluidique permanente, on porte le remède en soi-même. Il ne s'agit que d'épurer cette source et de lui donner des qualités telles qu'elles soient, pour les mauvaises influences, un repoussoir au lieu d'être une force attractive. Le périsprit est donc une cuirasse à laquelle il faut donner la meilleure trempe possible. Or, comme les qualités du périsprit sont en raison des qualités de l'âme, il faut travailler à sa propre amélioration, car ce sont les imperfections de l'âme qui attirent les mauvais esprits. Les mouches vont où des foyers de corruption les attirent. Détruisez ces foyers et les mouches disparaîtront. De même, les mauvais esprits vont où le mal les attire. Détruisez le mal et ils s'éloigneront. Les esprits réellement bons, incarnés ou désincarnés, n'ont rien à redouter de l'influence des mauvais esprits. Explication de quelques faits réputés surnaturels. Vue spirituelle ou psychique, double vue, somnambulisme, rêve. Point 22. Le périsprit est le trait d'union entre la vie corporelle et la vie spirituelle. C'est par lui que l'esprit incarné est en continuel rapport avec les esprits. C'est par lui enfin que s'accomplissent en l'homme des phénomènes spéciaux qui n'ont point leur cause première dans la matière tangible et qui, pour cette raison, semblent surnaturels. C'est dans les propriétés et le rayonnement du fluide périsprital qu'il faut chercher la cause de la double vue. Ou vue spirituelle qu'on peut aussi appeler vue psychique, dont beaucoup de personnes sont douées, souvent à leur insu, ainsi que de la vue somnambulique. Le périsprit est l'organe sensitif de l'esprit. C'est par son intermédiaire que l'esprit incarné a la perception des choses spirituelles qui échappent au sens charnel. Par les organes du corps, la vue, l'ouïe et les diverses sensations sont localisées et bornées à la perception des choses matérielles. Par le sens spirituel ou psychique, elles sont généralisées. L'esprit voit, entend et sent par tout son être ce qui est dans la sphère du rayonnement de son fluide périsprital. Ces phénomènes sont, chez l'homme, la manifestation de la vie spirituelle. C'est l'âme qui agit en dehors de l'organisme. Dans la double vue, ou perception par le sens psychique, il ne voit pas, par les yeux du corps, bien que souvent par habitude, il les dirige vers le point sur lequel se porte son attention. Il voit par les yeux de l'âme, et la preuve en est, c'est qu'il voit tout aussi bien les yeux fermés et au-delà de la portée du rayon visuel. Il lit la pensée figurée dans le rayon fluidique. Entre parenthèses, voir numéro 15. Fermez la parenthèse. Remarque. Fait de double vue et de lucidité somnambulique rapporté dans la revue Spirit de janvier 1858, page 25, de novembre 1848, page 213, de juillet 1861, page 197 et de novembre 1865, page 352. Fin de la remarque.
Quelques mots sur une nouveauté du mouvement spirit francophone. La librairie spirit francophone se propose de rassembler un maximum d'ouvrages écrits en français sur le spiritisme ou sur toute autre forme de spiritualisme se rapprochant de la philosophie spirit. Le but premier demeure la diffusion du spiritisme. La librairie imprime donc les livres de base d'Alan Kardec et des pionniers du spiritisme, mais en plus, en collaboration avec l'encyclopédie Spirit, la librairie Spirit francophone propose de rééditer des livres rares ou disparus. C'est pourquoi sur le site de l'encyclopédie, un sondage est proposé afin que les habitués du site puissent voter pour les livres qu'ils aimeraient voir réédités. Un nouveau sondage devrait être proposé tous les 3 mois à la librairie Spirit francophone et elle vous invite à aller sur son site, mais aussi celui de l'encyclopédie Spirit à l'adresse http://www.spiritisme.net pour voter bien sûr, mais découvrir les trésors oubliés que renferme la littérature spirit francophone. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de la librairie Spirit francophone à l'adresse suivante www.libsf.com. Nous voici arrivés à la partie réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Communiqué de notre correspondant Pierre Etienne G. Du 16 au 18 avril dernier, s'est tenu le 3e congrès spirit brésilien qui honorait la mémoire de Chico Xavier, qui aurait fêté ses 100 ans cette année. À cette occasion, un programme particulier a été organisé par la Fédération spirit brésilienne, qui a commencé en marche du progrès par un concert de l'Orchestre symphonique du Théâtre national de Brasilia, au centre des conventions Ulysse Guimarães, où s'est déroulé l'ensemble du congrès. Le lendemain matin eut lieu l'inauguration, avec la présence, entre autres, du vice-président de la République du Brésil. S'ensuivirent 3 jours d'intenses émotions, où se succédèrent des conférences et des témoignages qui brillaient tous par leur haute teneur spirituelle. Le congrès s'est achevé le dimanche après-midi dans une apothéose d'émotions les plus profondes. À l'occasion de la clôture du congrès, le conférencier Divaldo Franco, durant son intervention, a transmis par psychophonie un message de l'esprit Bezerra de Menes. Ce congrès, bien qu'étant brésilien, a été de portée mondiale. Message que je vous livre dans son intégralité. Le moment de la glorieuse transition. Nous sommes à présent dans une nouvelle période. Ces jours annoncent une date très spéciale. La date du passage du monde d'épreuve et d'expiation au monde de régénération. La grande nuit qui s'était abattue sur la terre cède lentement la place à une aube pleine de bénédictions. Revenir en arrière n'est plus possible. Filles et fils de l'âme, vous avez pris un engagement envers Jésus avant de revêtir le vêtement de chair, l'engagement de le servir avec abnégation et dévouement. Vous avez promis de lui être fidèle, quand bien même cela exigerait de votre part le sacrifice. Tandis que les horizons de cette aube qui chemine vers la plénitude du jour s'agrandissent, nous exultons ensemble, les esprits désincarnés et vous autres qui transitez par le monde d'ombre, mais au-delà de la joie qui nous domine tous, ayons à l'esprit les graves responsabilités qui stimulent notre existence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Nous devrons revivre les jours inoubliables de l'époque du martyrologe. Nous serons non seulement conviés aux applaudissements, à l'enthousiasme, aux réjouissances, mais également aux témoignages. Le témoignage silencieux dans les paysages intérieurs de l'âme. Le témoignage par l'amour envers ceux qui ne nous aime pas. Le témoignage d'abnégation dans le sens d'aider ceux qui se complaisent encore à créer des difficultés dans une vaine tentative d'entraver la marche du progrès. La grande transition commencée, nous l'atteindrons, son point culminant, et parce que la planète vit ces changements physiques, géologiques, les changements moraux ne peuvent être remis à plus tard. Soyons ces esprits spirites qui démontrent la grandeur de l'amour de Jésus dans nos vies. Que d'autres réclament, que d'autres se plaignent, que d'autres parlent avec amertume. Mais gardons dans le tréfonds de l'âme l'engagement d'aimer et d'aimer toujours, ramenant Jésus avec toute la force de ses jours, et nous irons loin, car ils sont tout proches. Jésus, fille et fils bien-aimé, nous attend. Que notre bouclier soit l'amour, que nos outils soient l'amour et que notre avis soit un hymne à l'amour. Ce sont les vœux que formulent les esprits spirites ici présents, esprits qui me suggèrent de les représenter devant vous. Avec beaucoup de tendresse, le serviteur humble et paternel de toujours, Bézéra. Paix, filles et fils du cœur. Note, message psychophonique reçu par le médium Divaldo Pereira Franco lors de la clôture des commémorations du centenaire de la naissance de Chico Xavier, réalisé au centre des conventions Ulysse Guimarães à Brasilia le 18 avril 2010. Nous voici arrivés à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique tout d'abord. Le samedi 22 mai 2010, de 19h à 20h, le Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles organise une petite brocante de vêtements d'enfants et une vente de vêtements d'été à prix très abordable. Adresse du jour, siège social, 134 rue Louis App à 1040 Bruxelles. Pour plus de renseignements, merci de bien vouloir prendre contact par voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 02 647 37 85 ou via courriel à l'adresse suivante csacbruxelles@gmail.com. Le dimanche 23 mai 2010, dès 10h, le centre philosophique Nos Solars de Bertry en province du Luxembourg, Belgique, organise une sortie en forêt environnante autour du thème « Nature, conscience et Dieu ». Rendez-vous au siège social 21 rue des Hautes Voies à 6880 Aubie-sur-Semois, Bertry. Cette promenade pédagogique sera suivie d'un exposé sur le thème de cette sortie forestière, tout en rappelant les œuvres d'André Louis par le célèbre médium Chico Xavier. Renseignements et inscriptions via la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 061 503 726 ou GSM 0476 913 966 ou via courriel à l'adresse suivante marciario6@yahoo.fr. Au Grand-Duché du Luxembourg, le lundi 7 juin 2010 à 19h30, le groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg organise une conférence sur le thème « La joie de vivre ». Le conférencier sera Divaldo Pereira Franco. Celle-ci aura lieu au centre culturel de l'Insperbeck 49 rue Emmesinde à 1469 Luxembourg. Pour renseignements et inscriptions, via courriel, Alain Kardec Lux en un mot at yahoo.fr. En France, à Calonne-Ricouart, l'Institut spirituel psychosique propose le dimanche 24 mai 2010 à 15h, dans la salle des fêtes de Calonne-Ricouart, une conférence sur la musique et la spiritualité. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact avec l'Institut par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 62 89 69 25 ou directement via le site à l'adresse suivante www.institutspirit.com. L'association du chemin propose le samedi 29 mai à 14h30 une conférence sur le thème « Médecine et spiritualité ». Celle-ci aura lieu à la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à Grézieux-la-Varenne. Pour renseignements et inscriptions, merci de prendre contact par téléphone en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou via le site de l'association www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.